sans détour avec François Beauregard.
Bonjour tout le monde, ici François Beauregard. 11 mars, oh là là! Et ben, il y avait un petit retour hivernal dans les 24 dernières heures. Là, ça dépend où vous êtes. J'ai des amis à Shawinigan, sa mère que là-bas, il en est tombé toute une pelletée. Voilà. Alors, aujourd'hui, ben, on a le plaisir de recevoir Mathieu Baron, un comédien que vous connaissez peut-être pour son rôle dans Indéfendable, mais ce que vous ne connaissez pas de Mathieu, c'est aussi son implication. Il va être le porte-parole de la 36e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. On en parle avec lui. Nous aurons le plaisir de recevoir Mme Amy Foster, qui est agente de développement pour les services de loisirs de la ville de Baie-Comeau. Là-bas, ils ont créé une salle bien spéciale à leur bibliothèque. On va en parler. Élisane Pellerin sera avec nous pour faire la revue de presse. Mais avant tout ça, chronique scientifique avec Philippe Ducharme. Tout ça à Sans détour. Bonjour Philippe, comment ça va?
Ça va bien, François, et toi?
Ça va bien, on avait des petits problèmes techniques en arrière-plan, là, ça n'a pas trop paru, mais désolé, je pense qu'on a eu un petit silence radio de quelques secondes. Bon, tout ça devrait rentrer dans l'ordre très bientôt. On parle de science et comme d'habitude, on parle aussi de bonnes nouvelles, Philippe.
Oui, c'est exactement ça. Puis on va commencer par les gens qui souffrent malheureusement d'allergies alimentaires.
Hein. Oh oui! Il y en a beaucoup.
On parle de 6 % des enfants, puis de 3 à 4 % des adultes là, dans des pays comme ici au Canada, là, avec des habitudes de vie occidentales. Donc, c'est un problème qui est assez fréquent, on peut dire ça comme ça.
Moi, j'ai l'impression que plus de gens qui ont des allergies alimentaires aujourd'hui qu'il n'y en avait lorsque j'étais moi-même à l'école primaire, puis ainsi de suite, là, il y avait peut-être élève de temps en temps là, qui avait, pour qui il fallait faire vraiment attention, mais c'était moins commun.
Ben, c'est possible. Écoute, les habitudes de vie, le mode de vie qu'on a peut-être justement créé un peu plus, une certaine augmentation des personnes qui souffrent d'allergies. Ceci étant dit, ben, une allergie alimentaire, c'est une sensibilité du système immunitaire vis-à-vis quelque chose qui, normalement, ne devrait pas poser problème. Hein, un aliment, on ne devrait pas avoir à craindre ça. Mais le système, lui, il considère ça comme un danger. Puis à cause de ça, ben, il réagit. Il peut réagir de différentes manières. Mais en règle générale, au niveau des allergies alimentaires, ben, une première exposition va entraîner une libération d'un type d'anticorps particulier qu'on appelle les IgE. Bon, ça, c'est normal, mais le problème, ça survient quand il y a une seconde exposition à cet agent-là allergène chez les personnes allergiques, bien entendu. Là, le système vraiment s'emballe.
Et, c'est à la deuxième exposition, puis là, c'est un choc. Là c'est là que...
Dans les cas, une allergie, ça peut se manifester par des rougeurs, des plaques, des choses qui peuvent être plutôt bénignes, mais dans certains cas, ça peut être vraiment très grave. Ça peut conduire à ce que les gens ont certainement déjà entendu parler, le choc anaphylactique. Ça veut dire essentiellement que là, le corps réagit fortement, le rythme cardiaque augmente, les substances libérées par le système immunitaire vont dilater les vaisseaux sanguins, ce qui a pour effet aussi de chuter la pression artérielle.
Puis souvent, on peut avoir de la difficulté à respirer ou à avaler, ou on a l'impression que la gorge se resserre.
Oui. Exactement, parce qu'il y a un gonflement au niveau justement de la gorge, par exemple. Bref, ce qui peut arriver, c'est que la personne va perdre connaissance et peut malheureusement mourir. Ça, c'est si on n'a pas à la portée de soi l'antidote, c'est-à-dire la fameuse épipène, l'auto-injecteur d'adrénaline qui permet justement de calmer tout ça.
D'accord. Mais il y a des bonnes nouvelles, semble-t-il.
Oui, Oui, exactement. Donc, une étude récemment parue dans le New England Journal of Medicine apporte de l'espoir pour ces personnes-là atteintes d'allergies alimentaires. Donc, l'étude a montré qu'un médicament qu'on appelle le Xolair, un médicament qu'on connaît déjà parce qu'on l'utilise pour le traitement de l'asthme, mais ce médicament-là peut également prévenir des réactions allergiques liées à plusieurs aliments. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Le médicament, il va bloquer justement l'action des anticorps IgE dont j'ai parlé un peu plus tôt. Donc ça, c'est son mode d'action. Mais ce qu'on va retenir de ça, c'est que leur étude, qui a été notamment faite sur plusieurs enfants âgés de 1 à 17 ans, a montré que ceux-ci auront une tolérance plus grande, une meilleure tolérance à ces agents-là alimentaires, que ce soit des cacahuètes, des œufs, du lait.
Oui. Les cacahuètes, c'est assez fréquent comme allergie. Hein? C'est peut-être en tête de liste.
Exactement. Puis par exemple, là, parce que tu me parles des cacahuètes, cette étude-là a montré que les personnes qui ont été traitées sur une base régulière entre 16 et 20 semaines, avec ce médicament-là, bien entendu, ont vu leur tolérance augmenter à un point tel où ils étaient capables d'être exposés à 600 mg
de
cacahuètes.
D'accord. 600 mg, c'est quoi? C'est 60 grammes?
En fait, ça va être 0.6.
0.6 grammes. C'est pas beaucoup.
0.6 grammes. C'est pas beaucoup.
Pas beaucoup. Mais c'est si. C'est ça.
Les gens, ça leur en prend tellement peu pour réagir.
Déclencher,
donc, ça peut paraître peu, mais c'est beaucoup être capable de tolérer une telle quantité. Donc, c'est là où cette étude-là amène vraiment quelque chose qui est très porteur d'espoir pour les personnes qui souffrent d'allergies alimentaires. Mais il faut faire attention, il ne faut pas considérer ce médicament-là comme une possibilité de manger, de consommer des aliments.
Non, exact. Ça réduit l'intolérance. Ça permet peut-être d'éviter qu'une crise soit déclenchée, mais ça ne veut pas dire que l'intolérance ou la condition d'allergie va disparaître. Là. C'est pas
non,
la même
absolument
chose.
Absolument pas. Et en terminant, si tu me permets, ce qui est très intéressant de cette nouvelle-là, c'est que on a approuvé récemment aux États-Unis, là, l'Agence américaine des médicaments a approuvé ce médicament-là pour cet usage-là de prévention pour les personnes atteintes d'allergies alimentaires.
Parce que c'était déjà un médicament approuvé pour combattre l'asthme.
Dans un autre contexte.
Toutes les questions d'effets secondaires chez les humains, et ainsi de suite, avaient déjà été franchies. Alors ça, c'est des étapes qui souvent sont plus longues quand on met au point un nouveau médicament. Bravo. Alors, et peut-être, mais au Canada, ça sera homologué aussi.
On va espérer.
L'endométriose.
Oui. Une maladie... Moi, en tout cas, je ne la connaissais pas tant que ça, cette maladie-là, mais elle est plus fréquente qu'on peut penser. En fait, il y a à peu près 10 % des femmes et des filles en âge de procréer qui peuvent être atteintes de cette maladie-là inflammatoire. Ça représente quand même 190 millions de personnes là, dans le monde. Ça fait du monde quand même.
Oui.
La maladie en soi, ça se caractérise par le développement d'un tissu, le tissu qui est semblable au tissu qu'on retrouve sur la paroi utérine, dans l'utérus.
Oui.
Mais plutôt que de le retrouver là, c'est un tissu qui va se développer à l'extérieur de l'utérus.
Oh, OK.
Principalement dans la cavité abdominale. L'ennui avec ça, c'est que ça entraîne aussi une réaction inflammatoire du corps. Mm-hmm. Ça culmine avec des lésions. Des lésions qui vont être douloureuses. Là. Ça peut créer des douleurs assez aiguës au niveau du bassin chez les femmes et les filles qui souffrent.
Atteinte d'endométriose. Et ça, c'est pour les jeunes filles et les femmes qui sont en âge de procréer. Alors, on part de 12-13 ans jusqu'à fin de la quarantaine, début de la cinquantaine.
C'est là où c'est significatif parce que ça peut donc impacté pendant une longue période de la vie de la personne qui en souffre. Là, c'est ça qui est malheureux.
Est-ce que c'est d'origine... est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que c'est... D'où ça vient et qu'est-ce qu'on peut faire?
La question est bonne. En fait, moi, ce que je peux te dire par rapport à ça, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui comment on peut prévenir cette maladie-là. Il n'existe pas non plus de traitement pour ça, des traitements curatifs. On a seulement la possibilité de certains médicaments pour apaiser un peu les symptômes, là, puis les conséquences que ça a. C'est ce que j'en sais, moi, là-dessus, en tout cas, du coup.
Jusqu'à ce que le docteur Donald Poirier,
oui,
du CHU de Québec, fasse des recherches qui sont prometteuses.
Tout à fait. Alors, cette équipe-là de recherche, comme tu l'as mentionné, a mis au point une famille de molécules, une molécule qu'ils ont nommée PBRM. Bon, cette molécule-là a pour action de bloquer une enzyme, mais pas n'importe laquelle. Bon, là, je rentre dans l'aspect technique, là, mais l'enzyme, c'est la 17-bêta-HSD1.
Ben oui, bon, c'est sûr.
Mais retenons une chose de cette enzyme-là, c'est que c'est une enzyme qui, normalement, est impliquée dans la production, donc la fabrication de certaines hormones sexuelles. Par exemple, l'estradiol.
Qui est l'hormone féminine typique, là, si je...
Ben, effectivement, là, c'est l'hormone classique, une hormone estrogène produite par les ovaires. Bon, il y a aussi une autre hormone qui est sous la gouverne de cette enzyme-là, qui est l'androstène, dans une autre famille d'hormones produites par les ovaires, mais aussi par les glandes surrénales. Mais essentiellement, l'idée, c'est que, ce que je n'ai pas mentionné jusqu'à présent, c'est que l'endométriose, c'est une maladie qui est influencée par les niveaux de production d'estrogène.
Ben oui, on pouvait le croire, hein? Parce qu'il y avait un lien avec la capacité de procréer. Donc, on peut penser que dans la vie de la femme, d'enfant jusqu'à un grand âge, il y a des fluctuations hormonales et l'endométriose semble corrélée avec la capacité de procréer. Donc, voilà.
C'est ça. Il y a un lien entre les deux. Alors, c'est pour ça que on a ici peut-être une cible intéressante pour tenter de minimiser, de contrer un peu les effets de l'endométriose en bloquant cette enzyme-là qui normalement produit les hormones qui vont jouer sur la maladie.
D'accord. Fait que,
essentiellement, les chercheurs, ils ont fait des essais avec des animaux qui servent de modèle pour étudier la maladie. Puis après 2 mois de traitement, là, ben, la grosseur puis la nombre de lésions était diminué de 60 %. C'est quand même un chiffre assez impressionnant. Ces animaux-là manifestaient beaucoup moins de douleurs également liées à la maladie. Donc, c'est un traitement qui ne semblait pas du tout toxique, là. Il est tout à fait compatible. Et puis, ça n'affecte pas la durée du cycle menstruel. Donc, ça n'a pas d'effet secondaire autre que ce qu'on souhaite. Là.
Oui, parce que c'est quand on commence à trafiquer dans le cycle hormonal, là, ça peut souvent avoir une cascade d'effets là, qui sont terribles. C'est prometteur. Évidemment, il faut passer à l'étape de l'étude auprès des femmes.
Oui.
Là.
C'est exactement.
Savoir comment le corps va réagir. Mais c'est au moins c'est une avancée qui est prometteuse. 10 %, c'est vraiment beaucoup. Hein.
Exact.
Bravo. Oui. On fait des valves cardiaques avec des imprimantes. Ah, ben ça, c'est... c'est pas mal mieux que des armes de poing, hein?
Voilà. Oui. Ben écoute, ici, c'est donc des chercheurs du Centre universitaire hospitalier de Sainte-Justine, affilié à l'Université de Montréal. Je les présente, là, le professeur Oumand Savoji et son étudiant au doctorat, Armand Jaffari. Donc, ces deux chercheurs-là ont réussi vraiment une prouesse assez remarquable. Ils ont conçu, donc fabriqué, ce qu'on appelle une bio-encre. Une bio-encre, c'est un genre d'hydrogel, là, une substance un peu gélatineuse, mais qui, à bord d'une imprimante 3D, permet de créer des valves cardiaques, des valves cardiaques fonctionnelles. Puis le but de ça, ben, c'est pour, par exemple, améliorer les chances de guérison chez les enfants qui sont atteints de la valve aortique bicuspide. C'est une sorte de, c'est un type de malformation congénitale qui est la plus fréquente en fait, chez les jeunes enfants, mais qui va entraîner des complications à l'âge adulte.
Et parce que de pouvoir produire ça avec une imprimante 3D, ben on peut s'imaginer que ça permettra peut-être qu'il y ait une production plus large, que ça fait baisser les coûts, ainsi de suite. Mais il faut que le produit ne soit pas rejeté par le corps humain non plus.
Exactement. Ce que présentement les chercheurs ont statué, c'est que c'est une structure qui va s'ouvrir et se refermer tout à fait correctement, qui va être biocompatible, c'est-à-dire compatible à un organisme vivant, un animal comme nous, par exemple, et surtout aussi une structure qui ne va pas entraîner de coagulation sanguine. Fait que ça, c'est important, ça aussi. Là. Si on pense à éventuellement à le transplanter, on ne voudra pas se retrouver avec des situations où le sang coagule, forme des caillots, et ainsi de suite. Présentement, la valve n'a pas encore été testée dans un modèle animal, mais c'est la prochaine étape. Là. C'est de justement transplanter ça chez des animaux pour s'assurer que ça fonctionne bien, puis qu'éventuellement on puisse considérer ça comme un traitement chez les personnes qui ont besoin de remplacement de la valve. Voilà.
Mais on parle de valves qui sont biomimétiques, c'est joli comme mot.
Exactement. Donc, le biomimétique, c'est un terme qui émerge du génie tissulaire, en quelque sorte. Donc, c'est un champ d'études qui vise à créer des tissus qu'on dit pratiquement vivants, là, des tissus vivants. C'est d'ailleurs quelque chose de très distinctif dans leur innovation, c'est-à-dire qu'eux autres, ils pensent que ce type de matériel-là va pouvoir se développer et grandir avec la personne qui est greffée avec ça.
Oh là là.
Donc, c'est pas rien, ça pourrait réduire le nombre d'un
bras. Là, c'est à nouveau, on est dans la science-fiction, Philippe.
Oui,
c'est vraiment, incroyable. Vraiment, oui, parce qu'on peut penser que si c'est un enfant qui naît avec une malformation cardiaque de ce genre, et puis on implante à son jeune âge une valve de ce genre-là, l'enfant grandit, elle devient adulte, et elle va avoir... il faut que la valve soit conforme puis continue de progresser.
Ouais, exactement. Oh là là. Ça pourrait au moins réduire le nombre d'interventions chirurgicales chez la personne. Là, fait que ça, c'est vraiment le côté très innovant de ce qu'il veut.
C'est formidable. Tout ça à l'hôpital Sainte-Justine, puis tout à l'heure, c'était au CHU de Québec. On en fait des choses ici.
On en fait des choses au Québec, vraiment.
C'est super. Merci beaucoup, Philippe. Encore un bagage de bonnes nouvelles.
Ça me fait bien plaisir, François.
Merci.
Salut bien.
C'est bon, ça. On aime la musique, mais on aime encore plus notre prochain invité, Mathieu Baron. Bonjour, M. Baron.
Bonjour, comment ça va?
Ça va très bien. Peut-être que les gens vous connaissent, entre autres, comme comédien dans la série quotidienne Indéfendable, là, où vous incarnez un policier sympathique.
Je sais, oui.
Mais ça vous change parce que avant ça, vous étiez dans une autre chaîne où vous incarniez un policier qui ne l'était pas. Alors,
c'était différent, d'autres couleurs.
Voilà. Bon, on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Vous êtes le porte-parole de la 36e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Et c'est pas par hasard que vous êtes impliqué de cette manière-là.
Non, j'aime dire qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. Celui-ci en est un beau. Écoutez, j'ai la chance d'avoir un frère qui aujourd'hui a 31 ans, atteint d'une d'une différence, atteint d'une DI, entre autres.
Alexandre.
Alexandre, exactement. J'ai eu la chance également de côtoyer différentes personnes avec une DI. Donc, c'est pour moi quelque chose d'extrême important. C'est un court moment dans une année, une semaine, donc c'est important. Je pense que c'est important d'en parler, c'est important de faire du bruit, c'est important de dire à tout le monde que chacun a sa place, donc et que peu importe l'aide, l'entraide, la visibilité, l'accessibilité qu'on peut donner à ces gens-là, c'est que du plus.
Oui, la semaine va se dérouler du 17 au 23 mars, puis vous parlez d'une semaine, c'est court dans une année, mais il faut quand même marquer le coup. Il va y avoir, je pense, des événements, entre autres, jeudi de cette semaine, je pense, il y a comme un lancement ou quelque chose, là, pas petit.
Écoutez, c'est sûr que tout au long de la semaine, il y a différentes places là, à travers la province. Il va y avoir des événements et ce qu'on veut, comme je disais tantôt, c'est de si je peux me permettre l'expression, de faire du bruit.
Oui.
Et on a une belle campagne. J'ai bien hâte de faire découvrir tout ça aux gens. On est très fiers de ce qu'on a fait. Et puis, je pense que ça va être un beau message, ça va être un beau moment pour tous. Puis, encore une fois, le but premier, c'est d'aller chercher de la visibilité et pour améliorer l'intégrité, si oui. on veut, de ces gens-là dans notre société qui est, comment je peux dire, peut-être pas toujours à point.
Accueillante.
Accueillante, merci, j'adore. Voilà, c'est moi, mon but premier, c'est pour ma part, c'est vraiment ça, c'est de que tout le monde soit conscient qu'un peu d'aide, ça ne peut qu'aider.
Parce que souvent, le problème, c'est pas de la part de la personne qui vit avec une déficience intellectuelle, c'est plutôt dans l'œil de l'autre qui juge la situation. Et c'est plus déroutant quelqu'un qui a une déficience intellectuelle que quelqu'un qui a une jambe dans le plâtre. Il faut le reconnaître. Là.
Oui.
Si on n'est pas habitué, dans notre entourage, on n'a pas de personne avec une DI, ça peut, au début, ça crée parfois un malaise, puis là, ça fait boule de neige.
Exactement.
Malheureusement.
Ça amène un inconfort, si je peux me permettre de dire ça ainsi, comme vous le dites, les gens qui ne sont pas habitués. De là, raison de plus d'en parler, de montrer à tout le monde que c'est rien de contagieux, tout ça.
Oui.
Donc, c'est pas, faut pas avoir peur de faire un câlin, faut pas avoir peur de rire, faut pas avoir peur de se taper dans la main. Il n'y a pas de souci. Excusez, je suis dans la gorge. C'est encore une fois le but de cette semaine-ci. C'est d'en parler, de faire le plus de bruit possible.
Exact.
Parce qu'il n'y aura jamais assez, d'aide et de visibilité pour ces gens-là. Puis, plus qu'il va en avoir, bien, comme vous disiez tantôt, je pense que ça peut juste éliminer un peu les inconforts que certaines personnes peuvent avoir lors d'une rencontre avec une personne avec une DI.
Tout à fait. Dans ce cadre-là, il va y avoir des capsules vidéo sur différents aspects de leur vie qui vont être diffusées sur les réseaux sociaux par la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Puis on va parler de choses comme le sport, puis voyager, puis le temps en famille, puis la vie de couple, parce que ça aussi, ça c'est comme un gros tabou qui entoure la question de la déficience intellectuelle. Parce qu'en fait, c'est du monde. C'est juste du monde. C'est rien d'autre que juste du monde.
C'est ça. C'est des gens comme nous. Donc voilà, comme je disais, c'est rien de contagieux. C'est des gens qui ont une vie comme vous et moi. Bien sûr, selon la DI, ensuite, le niveau d'autonomie varie, mais que ce soit dans le sport, comme vous le disiez, exactement. Que ce soit dans le sport, la vie amoureuse. La vie familiale, et tout ce qu'ils demandent, ces gens-là, c'est d'avoir une vie comme tout le monde. Puis pourquoi je vois pas pourquoi ils pourraient pas. Donc, pourquoi pas, exact. Donc, c'est mon mandat, c'est ça, c'est de le crier haut et fort.
Donc, on parle Alexandre, c'est votre frère cadet, il est un peu plus jeune que vous?
Exactement, oui, de 9 ans.
Oh, OK, parfait. Alors, quand vous avez grandi, vous aviez toujours eu Alexandre dans le paysage, si je peux dire.
Oui.
Hein, vous l'avez connu dès ses premières journées, ses premières semaines, puis ainsi de suite. Oui. Vous êtes devenu, en fait, le rôle de grand frère là, a pris toute sa...
son sens, oui.
Oui, tout son sens, là.
Hein? 100%, 100%. Oui, allez-y.
Ben, j'allais vous demander, est-ce que aujourd'hui, maintenant qu'il est adulte, dans le cadre de cette campagne-là, est-ce qu'il va être avec vous à l'avant-scène ou s'il va se faire discret, est-ce qu'il vient avec vous partager ces moments-là? Parce que je pense qu'il y a peut-être des difficultés d'expression orale, mais cela dit, est-ce qu'il... Parce qu'il est sur l'affiche, en tout cas. Hein? Sur l'affiche, on ne peut pas le manquer.
Non, on ne peut pas le manquer, effectivement. Écoutez, effectivement, Alexandre est non-verbal, mais... À chaque fois que je peux, chaque occasion que je peux me permettre de l'avoir avec moi, il est là. Donc, oui, puis ça lui fait extrêmement plaisir. Alexandre, c'est quelqu'un qui est solaire, qui est toujours de bonne humeur, qui amène de la chaleur partout où ce qui passe. Donc, quand je peux, bien sûr, qui est à mes côtés, ça, c'est sûr et certain.
Au courant de la semaine, il va y avoir des événements. On en a parlé un petit peu. Parce qu'on parle de la 36e semaine, la Société québécoise de la déficience intellectuelle, là, ça n'a pas été inventé hier.
Hein?
C'est,
non.
C'est un long historique de travail, beaucoup d'informations, ainsi de suite. Il y a un livre qui s'appelle 60 ans d'encouragement au cœur de nos vies. C'est un ouvrage qui met en lumière les avancées sociales relatives à la déficience intellectuelle au Québec. Et ça, vous pouvez même aller le télécharger sur le site. Je pense que ça va être aussi simple que ça.
Parce
que,
génial.
Ben oui, parce que le reste de l'année, il ne faut pas comme juste... Ben là, on est rendu le 24 mars, on tourne la page, puis ça va devenir la semaine nationale de d'autres choses.
Hein? Ouais.
Exact. Dans le reste de votre année, est-ce que vous faites des choses, d'autres formes d'implication pour... La société québécoise ou peut-être des fois de façon plus discrète?
Oui, oui, j'ai fait des trucs ici et là. Je me suis occupé pendant 11 ans d'une équipe de hockey.
Okay.
J'étais entraîneur d'une équipe de hockey là, avec des jeunes atteints d'une DI. J'ai fait ça pendant 11 ans de temps.
Okay.
Oui, non, disons que la DI a toujours fait partie de ma vie. Donc, c'est vous le disiez tantôt, là, c'est la 36e semaine, mais encore là, on est en 2024, puis il faut quand même encore expliquer à des gens que c'est pas une maladie contagieuse, puis que ces gens-là ont leur place comme tout le monde.
Mm-hmm.
Donc, ces semaines-là, je vous dirais, servent aussi à éduquer beaucoup
les
gens.
Oui, parce que vous parlez de la crainte de que ça puisse être contagieux. Moi, ça me renverse un peu de penser que cette idée-là puisse encore circuler.
Oui. Ben écoutez, ça fait pas si longtemps que ça. Ces gens-là étaient considérés comme malades.
Oui.
Ces gens-là étaient. On voulait les exclure de c'était des.
Puis on réussissait très bien à les exclure.
Oui. Ça pour les exclure, c'était pas difficile. Donc voilà, c'est pour ça un peu. Il y a peut-être un peu de frustration, je pourrais dire, de ma part, parce que de voir qu'encore aujourd'hui, on est capable de cloner des êtres humains. On peut avoir un robot qui conduit une voiture, mais pour ce qui est de l'ADI, il faut encore...
On n'est pas encore capable d'avoir la patente qui va ouvrir le cœur de tout le monde.
Et voilà. Donc, comme vous le disiez tantôt, il faut y aller à fond pendant ces semaines-là.
Ben là, je vous souhaite une grosse semaine, Mathieu Baron.
C'est gentil. Un énorme merci pour votre temps.
Merci.
Sans détour, avec François Beauregard.
De retour, et on est à Baie-Comeau aujourd'hui avec Mme Amy Foster, qui est agente de développement au service des loisirs et de la culture de la ville de Baie-Comeau. Bonjour, Mme Foster.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, vous?
Vous avez une bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque Alice Lane à Baie-Comeau. Je connais des gens de Baie-Comeau qui se souviennent d'avoir été souvent à la bibliothèque quand ils étaient à l'école.
Ah oui, moi,
oui. Puis ils me l'ont décrit en disant c'est un grand édifice qui est tout plein pied.
Oui, exactement.
Et dans ce sens-là, pour en faire un lieu accessible et accueillant, là, c'était vraiment idéal.
Oui, puis ça l'est encore, là. La bibliothèque, c'est un monde qui est en pleine transformation, hein. Donc, on essaie d'en faire un lieu de plus en plus accueillant et divertissant pour tous.
Puis là, vous avez récemment ouvert une section ou un service qui s'appelle un salon pour développer ces cinq sens. De quoi s'agit-il?
Oui, exactement. Bien, en fait, c'est que c'est un projet qui découle de notre politique à l'égard des personnes handicapées. C'est que le milieu nous avait nous a en fait soulevé que les enfants avec des besoins particuliers, ben, les enfants ou les adultes avec des besoins particuliers, avaient pas d'endroit à la bibliothèque pour se déposer, être calme et compagnie. Donc, nous, ce qu'on a développé, c'est vraiment un local qu'on appelle le Salon des cinq sens, qui est conçu pour développer les sens, puis laisser l'enfant avec des besoins particuliers explorer du matériel dans un lieu qui est propice là aux différents besoins.
Parce que c'est bien de stimuler à la fois les sens, mais en même temps, il ne faut pas les survolter parce que il peut y avoir des enfants ou des adultes qui vont être en fait plutôt rebutés par s'il y a une trop grande stimulation, là, ça peut devenir, en fait, ça peut faire le contraire, ça va les éloigner de la bibliothèque.
Oui, exactement.
Puis du goût d'apprendre ou de lire ou ainsi de suite. Alors, c'est quoi les équipements? Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce salon-là?
Bien, dans le fond, on a, première des choses, on a un éclairage adapté. Donc, l'éclairage peut être tamisé aux besoins. Il y a des matériaux insonorisants. Dans le fond, là, la salle est faite pour pas avoir de son à l'intérieur. Après ça, on a des stations de lecture. On a des outils de gestion du calme. On a des livres braille, des D'accord. livres musicaux, sonores, tactiles.
OK. Donc, vous avez toute une... Je dirais une gamme. Est-ce qu'il y avait des jeux ou des choses qui permettent peut-être une interaction entre les personnes qui sont dans le salon ou au contraire, c'est comme chacun est dans sa bulle ou son cocon?
Bien, actuellement, c'est vraiment chacun dans son cocon, si je dirais. Mais advenant le cas où le milieu exprimerait ce besoin-là, ben nous, on est très ouverts là, à adapter le salon puis offrir du nouveau matériel, des jeux et compagnie. Là.
Et puis, comment ça a été créé? Est-ce que vous êtes tourné vers une expertise ou comment vous en êtes arrivé? Parce que c'est bien d'avoir l'idée... puis de répondre, si je peux dire, aux besoins que le milieu exprime. Mais qui a travaillé là-dessus ou comment vous êtes dit, bon, ben on se retrouve sur des manches puis on va se faire un salon comme ça? Comment ça a marché?
Bien, dans le fond, on a travaillé en étroite collaboration avec plusieurs organismes du milieu, dont l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord.
OK. Donc,
tous ces gens-là là, avaient des contacts, des connaissances sur le matériel là, qu'on pouvait mettre en place. Et bien sûr, il y avait notre responsable de la bibliothèque là, qui a travaillé avec eux. Puis, dans le fond, on a... C'est ça, c'est un beau travail d'équipe, là.
D'accord, parce que c'est bien d'avoir l'intention que ce soit, je dirais, adapté, accessible, puis que ça remplisse son rôle, mais encore, il faut que ce soit fait d'une manière telle que on atteigne la cible. Le salon a ouvert ses portes, quoi, il y a quelques semaines?
En fait, on a la première séance, là, c'était durant la semaine de relâche. Là,
oh, la semaine dernière?
Oui, exactement.
Oh, bravo.
Donc, on en a fait de la promotion avant, mais ça l'a ouvert là, officiellement la semaine passée. Il y avait quand même une vingtaine de personnes présentes.
OK.
Donc, tous des gens qui avaient là, qui avaient des besoins particuliers, qui ont bien apprécié. On a dans la salle, là, ça s'appelle un canot sensoriel.
OK. Donc,
c'est comme un canot embarcation d'eau. Là.
OK, comme avec lequel on ferait de la chasse-galerie, là.
Oui, exactement. Mais c'est vrai, c'est un coussin, dans le fond. Puis le coussin vient faire une pression. On s'assoit dessus, puis il vient faire une pression sur nous, dans le fond.
Okay.
Puis ça vient calmer, là. Ben, en fait, ça peut venir calmer différents types d'anxiété aussi, là.
Okay.
C'est vraiment du beau matériel à l'intérieur.
Alors là, ça a été la première, ça a été l'ouverture officielle.
Oui.
Là, on peut dire que c'est un succès. Bravo.
Oui, c'est un succès. Puis comme la responsable de la bibliothèque mentionnait là, lors du lancement, c'est ça, on a des sommes, puis on est ouvert là, à adapter le matériel, à en rajouter, à faire des modifications. Là, c'est vraiment un projet qui est adaptatif dans le temps.
Bien, ça, c'est bien. Quand vous dites on a des sommes puis on a un budget, là, je suis certain qu'il y a des gens qui vont avoir des idées. Alors, ça, c'est très bien. Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est un peu l'inverse. Tant mieux. tant mieux que ce soit possible.
On n'a pas un budget limité non plus.
Non, je comprends. Il n'y a pas de souci. Puis, est-ce qu'il faut réserver, si on est dans la région de Bécomo, est-ce qu'on est obligé de réserver d'avance? Comment ça fonctionne, l'accès? Comment c'est piloté, ça?
Le salon a pour... c'est pour tous les gens qui se présentent à la bibliothèque, donc sans réservation.
D'accord.
C'est vraiment là, parce que, tu sais, une bibliothèque maintenant, il peut avoir du bruit hein, dans une bibliothèque maintenant, là.
Oui, c'est donc, pas comme avant.
Non, c'est ça. Avant, personne ne pouvait faire de bruit. Maintenant, il y a un coin jeu, il y a un coin avec des expositions et tout. Donc, c'est vraiment, quand quelqu'un vient à la bibliothèque, il peut se rendre dans cet endroit-là pour faire sa lecture, ses jeux en paix. Par contre, si un organisme voulait utiliser le local, ben peut-être qu'il pourrait appeler, en fait, puis réserver une plage horaire sans problème.
D'accord. Parce que c'est sûr qu'il faut... Il faut être capable à la fois d'être accueillant puis en même temps que d'avoir de pas que les gens soient pas frustrés s'ils arrivent. Oui. Puis ils pensaient que ce serait disponible et que ce ne l'est pas.
Exactement.
Est-ce qu'il y a d'autres initiatives que la ville de Baie-Comeau a dans les cartons pour augmenter ou mettre en place son programme d'accessibilité?
Oh mon Dieu, on en a plein.
Ouais.
Dernièrement, ben c'en est un qui est comme en continu, là, mais on est pas mal fiers de ça. C'est que durant notre semaine de relâche, là, c'est passé, vous me direz, mais durant la semaine de relâche, on a mis sur pied, on a une programmation d'environ 60 activités pour toute la population.
Okay.
Puis au sein de cette programmation-là, on est venu ajouter une programmation spécifique pour les gens à besoins particuliers. Donc, on fait affaire avec nos organismes organisateurs, puis on leur demande, « Hey, auriez-vous un moment par exemple, une heure avant l'activité,
oui,
où on pourrait offrir cette activité-là, mais aux gens avec des besoins particuliers? » Puis tous les organismes embarquent.
Oui.
Donc,
on
est en mesure, par exemple, d'offrir avant l'ouverture des jeux gonflables. On a une activité avec 13 jeux gonflables géants. On offre une heure.
Ça, c'est à quel endroit? Ça, c'est pas à la bibliothèque, les jeux gonflables.
Non, ça, c'est pas à la bibliothèque. Ça, c'est dans un des gymnases.
OK.
Puis, dans le fond, cette initiative-là, ben ça fait en sorte qu'on accueille à peu près, là, je vous dirais, 30 à 40 jeunes une heure avant l'ouverture
D'accord.
des jeux gonflables. Puis, c'est plein. Je dis des jeunes, mais il y a eu des adultes aussi qui se présentent. Uh-huh. Donc, ils ont accès à l'espace là en ayant un lieu plus calme là, parce
oui.
qu'on sait que les jeux gonflables, ça fait du bruit de base, mais en plus, avec 100 enfants, c'est toute une expérience.
Oui, c'est autre chose. Ouais.
Donc, dans cette programmation, on a ça, on a une activité, par exemple, de patinage adapté. Donc, l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées vient avec du matériel à l'aréna. Et nous, on est en mesure de pas mettre de musique, de baisser encore là les lumières et d'essayer les équipements adaptés. Donc, encore là, c'est une trentaine de participants qui viennent de tout âge confondu. Donc, c'est plein de petites initiatives qu'on essaie de faire là à l'année, mais durant le relâche, on vient faire vraiment une programmation spécifique.
Puis je pense que la piscine Saint-Nom-de-Marie aussi, je pense qu'il y a un projet d'installation d'une rampe.
Oui, exactement, parce que actuellement la piscine, elle est zéro accessible.
Là. Oh, OK. Bon, ben là, c'est...
Là, on
n'est pas capable de y aller cet après-midi, OK.
Non, c'est ça. Dans le fond, on est si quelqu'un est en mobilité réduite et n'est pas capable de se rendre, donc on est en train de... en fait, c'est dans les analyses en cours, là, on est en train de regarder pour avoir... là, je dis ça sous toute réserve parce que c'est pas moi qui est en charge, là, mais une espèce de rampe là, pour
oui,
descendre.
Okay.
Là,
comme un lift pour être capable de que la personne puisse descendre de façon sécuritaire dans l'eau.
Exactement.
Oui, ça, c'est sûr, ça demande du budget puis une installation, là. Mais
puis,
ça va faire une différence, oui.
Bien, complètement, parce que là, actuellement, on est en train... Parce qu'à Baie-Comeau, on a deux piscines extérieures.
OK.
Puis, il y a une piscine qui est accessible, si tout est correct. L'autre piscine, bien, c'est elle que je vous parle. Puis, là, on est en train, dans cette piscine-là, de refaire tout le bâtiment sanitaire.
OK.
Puis, en le faisant, bien, justement, on le met accessible. Donc, on peut pas le mettre accessible puis de pas donner accès aux gens. Donc, c'est comme
oui.
un beau projet.
oui. Bien, c'est dire, on a un lift pour vous permettre d'être dans l'eau, mais vous pouvez pas vous rendre jusqu'au lift, ça marche
ben,
pas.
S'il te plaît. C'est ça, c'est ça.
Oui.
Fait que c'est tout un gros projet. Là, le bloc sanitaire va être prêt là, prochainement, là, ben, pour l'été prochain. Mais l'autre, l'espèce de rampe, là, ça, c'est dans les cartons actuellement. J'ai pas de date officielle. Là. Mais on va essayer de faire ça le plus vite possible.
Ben bravo, Mme Foster, parce que il y a des villes qui mettent parfois des plans d'accessibilité sur pied, mais c'est souvent pas toujours ce que le milieu veut ou il y a beau y avoir de la bonne volonté, là, mais à Baie-Comeau, vous avez certainement, ça donne l'impression en tout cas que vous êtes certainement à l'écoute de ce qui se passe autour de vous.
Bien, je pense qu'on essaye du mieux qu'on peut de le faire, puis on a vraiment des partenaires en or, là. Les partenaires du milieu, là, sont ouverts, ils nous donnent des bonnes idées, ils comprennent les réalités, parce que, tu sais, on voudrait tous changer le monde, mais on tantôt parlait de...
Ben, on fait ça une piscine à la fois, ouais.
Exactement, mais c'est des partenaires pour vrai là, en or. Moi, je commence à travailler avec eux parce que le dossier des personnes, la politique à l'égard des personnes handicapées vient de tomber dans ma cour, là, puis j'ai tombé en amour tout de suite avec ces partenaires-là. Là.
Bon, ben c'est super. On souhaite avoir d'autres bonnes nouvelles de votre côté.
Oui, ben au plaisir de te reparler.
Merci beaucoup. Bye.
Bye-bye.
Got a pocket full of shells, and not much of anything else. I got a locket full of notes, or melodies on counted votes. And it's been so long since I've seen you, and I've been so gone, been out of my mind. And things they move on. But I just need you, so I still wait for you most every night. When are you coming home? It's so lonely here tonight. And crumbs, we got lost pretending undone. Then our blood fell from the clouds. The wind it screamed, the sea it howled. And every cold, dry morning, crows sing of how there's ice forming on the lake. Oh, yes, yeah, some. Somebody called me, said they saw you, said you were looking older, but just the same. When are you coming home? It must be freezing out today. And we'll sing Galilee, we'll sing Reverie, dance for the broken, break these chains. We'll sing of wrongs and lies and alibis. We'll take a chance and start again. The broken, break these chains. We'll sing of wrongs and lies and alibis. We'll take a chance and start again. We'll take a chance and start again. We'll take a chance and start again.
Rebonjour! On est de retour. On était rendu à l'autre bout du studio, notre studio qui est immense, oui. Où j'allais prendre une gorgée d'eau. Et me voici de retour. Merci. Bonjour tout le monde. Élisane Pellerin, bonjour.
Bonjour François.
Toute une récolte cette semaine.
Bonne récolte cette semaine, François, effectivement.
Alors, on va y aller tout de go. C'est presque une suite à la chronique scientifique de Philippe Ducharme de tout à l'heure.
Oui, c'était voulu, c'était tout à fait voulu.
Ben, c'est bien fait. Des bactéries ayant migré des intestins jusqu'aux yeux pourraient être responsables de certaines maladies dégénératives de la rétine.
Oui, c'est ce qu'on a trouvé donc dans une étude qui est publiée dans la revue Cell. CELL, qui est en anglais, qui a été publié par des Chinois et des Britanniques. Donc, ça pourrait être responsable, du moins en partie, de certaines maladies dégénératives de rétine qu'on pensait être entièrement génétiques.
Oh.
On soulève donc espoir que ces maladies puissent être un jour guéries avec des antibiotiques. Puisque si on trouvait, en fait, que ces bactéries sont principalement en lien avec la dégénération, on pourrait enlever les bactéries qui se retrouvent dans l'œil. On est encore loin de là, mais quand même, ça ouvre une porte qu'il va falloir inspecter pour les prochaines années pour les chercheurs dans les maladies dégénératives de l'œil.
Ben moi, je peux vous dire que c'est vraiment comme c'est vraiment comme une nouvelle avenue, parce que tout le temps, les maladies dégénératives de l'œil, on associe toujours ça à des questions génétiques, hein, comme la rétinite pigmentaire, j'en sais quelque chose, ou la maladie neuropathie de Leber. On associe toujours ça à la génétique, puis on fouille très loin de ce côté-là. Puis là, tout d'un coup, ce serait les microbiotes qu'on a dans notre intestin qui remontent jusqu'aux yeux pour accélérer ou créer produire des problèmes, pas génétiques, mais des problèmes oculaires. Alors, des souris qui ont été modifiées génétiquement. Je te dis que les souris travaillent fort.
Oui, pour, pauvres souris, moi qui aime les animaux, je trouve ça encore triste, mais je ne voudrais pas que ce soit fait sur moi. Donc, merci
pas tout
aux
suite.
Souris.
Ouais, voilà.
Donc, on savait déjà que les mutations du gène CRB1 affaiblissaient la barrière protectrice des yeux. Ce qu'on sait maintenant, grâce à l'Université Collège de Londres, c'est qu'on a constaté que les mutations de ce même gène rendent un peu plus perméable la barrière intestinale, ce qui permet aux bactéries intestinales de s'échapper et de se rendre jusqu'aux yeux.
Et donc, l'administration d'antibiotiques a permis de réduire les dommages aux yeux de ces dernières, alors en conservant ou en cloisonnant les bactéries dans l'univers intestinal, là, où est-ce qu'elles sont supposées faire du bon travail. Ça l'empêche que ça remonte jusqu'à l'œil. On estime à 5,5 millions de personnes à travers le monde le nombre de personnes qui ont des maladies héréditaires de la rétine. Et je lève ma main, je suis une
d'entre elles. Tu fais partie de ce groupe de privilégiés, François?
Ben là, je ne sais pas si je dois manger du yogourt ou plus en manger. Là, je suis tout mêlé.
C'est difficile de savoir quoi faire. Voilà. Bois de l'eau.
Exact. En parlant d'alimentation... Maintenant, toujours un peu dans la même optique là, de l'alimentation, puis l'effet que ça puisse avoir sur nous, les fibres dont on vante toujours le bon usage contribueraient au fonctionnement du cerveau des aînés.
Oui, en fait, je vous ai trouvé une autre recherche, cette fois publiée dans la revue Nature Communication, toujours en anglais. On parle de la prise quotidienne de suppléments de fibres qui aurait amélioré en 12 semaines le fonctionnement du cerveau d'individus âgés de 60 ans et plus. C'est une étude britannique cette fois, toujours le King's College de London, qui a remarqué que ces suppléments modifient en profondeur le microbiote intestinal des participants, notamment en augmentant la quantité de certaines bactéries jugées bénéfiques. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a recruté 36 paires de jumeaux identiques, donc, qui ont la même génétique. Depuis 60 ans, un jumeau a reçu des suppléments de probiotiques, donc en fibres, et l'autre a reçu un effet placebo, donc un médicament qui était du sucre, hein, qui ne contient rien. Et donc, au bout de 12 semaines, les sujets qui avaient reçu le supplément de fibres présentaient une performance supérieure lors des tests visant à mesurer la fonction cérébrale, le temps de réaction et la vitesse de traitement au niveau des fonctions neurologiques. Par contre, on sait aussi que ces personnes-là, parce qu'elles avaient mangé plus de fibres, ont réduit, ont mangé moins de repas quotidiens habituels, si on
préparer
veut.
Préparer des repas... de la nourriture transformée, oui, ou des choses comme ça.
Donc, il y a aussi une baisse dans le rapport au niveau du gras qu'ils ont mangé.
Le gras, le sucre qu'on trouve souvent dans les aliments préparés. Dans l'article, je trouve ça intéressant parce qu'ils disent, en outre, les preuves de l'existence de l'axe intestin-cerveau. Moi, quand j'ai lu ça, l'axe intestin-cerveau, ça m'a fait sourire parce que souvent, c'est un axe cerveau-intestin.
Oui, mais non.
Ça marche plus dans l'autre sens, là, qui dit « Arrête donc, chercher d'autres beignes. » Alors là, il faut faire attention. Mais sans blague, on comprend qu'avec ce qu'on a lu tout à l'heure au sujet des yeux qui peuvent être affectés, des maladies oculaires peuvent être, je dirais, stimulées par des bactéries qui viennent des intestins. Mais en plus, si on prend soin de nos intestins en mangeant des fibres, ça a l'air d'avoir un bon effet sur le cerveau. Moi, je trouve ça... c'est juste une preuve qu'il faille bien
donc,
manger.
Donc, on n'est pas sûr, en fait, si c'est le manque de gras, la baisse de calories qui est en lien ou quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose ici. On a trouvé un lien qu'il va falloir explorer pour savoir exactement qu'est-ce qui est en jeu. Mais encore une fois, ça ouvre une porte à de futures recherches pour savoir comment on pourrait aider à contribuer à descendre les problèmes au niveau cognitif des personnes âgées.
Oui, comme quoi une bonne alimentation, là, ça,
oui,
ça fait pas juste nous faire mieux paraître pour le barbecue de l'été. Voilà. Paralympique, encore!
On parle encore de paralympique, François, ce sera ça probablement jusqu'à l'été, je m'en excuse.
Mais non, mais c'est bon qu'on en parle parce que on parle de paralympique, ben on parle d'accessibilité, puis voilà.
Donc, Tout Libre veut rendre les Jeux olympiques plus accessibles. Tout Libre, qui est une application qui veut organiser un événement, en fait, dans l'optique de rendre les Jeux olympiques plus accessibles aux personnes en situation de handicap. En fait, cette application-là va aider au niveau du transport, de l'hébergement et de l'organisation matérielle en fournissant des adresses adaptées pour les personnes en situation d'handicap.
Oh, ça c'est bien, ça permet de faire la promotion indirectement. En fait, ça veut dire que si on voyage, qu'on a besoin d'adaptation, ça permet de créer un lien avec les endroits qui sont accessibles. L'événement, évidemment, on parle de l'événement sportif majeur que représentent les Paralympiques ou les Jeux olympiques aussi qui ont lieu à Paris le mois qui précède. Donc, Toolib, T-O-O-L-I-B, développe un nouveau produit, Toolib Partenaire. Évidemment, toutes les applications françaises ont des noms anglais, on le sait bien. Plusieurs groupes comme Accor, ça c'est une grande chaîne hôtelière, et le Club Med ont manifesté leur intérêt pour s'associer à Toolib pour utiliser l'algorithme de leur site afin que des personnes qui cherchent des accommodements, des hébergements accessibles puissent trouver et réserver un hôtel adapté. Et là, on parle même qu'il serait possible d'adapter sur commande des chambres qui, à prime abord, ne le sont pas. Là, il faudra voir comment ça fonctionne, mais de permettre en conséquence d'augmenter le nombre d'hébergements dans un rayon de 2 heures de train autour de Paris.
Il faut dire que l'algorithme, en fait, est capable de calculer un niveau d'accessibilité, un pourcentage d'accessibilité d'un endroit. C'est pourquoi là, des grandes compagnies veulent s'y associer dans l'optique là, d'améliorer leur image et d'avoir accès à une clientèle à laquelle ils n'avaient pas accès, donc à une plus grande base au niveau de la clientèle.
Donc, ça crée comme une sorte de cote d'accessibilité.
Oui.
Savoir si l'endroit est accessible à 46 ou 78% ou ainsi de suite. Parlant d'accessibilité, en Allemagne, c'est pas champion pour la Coupe d'Europe.
En Allemagne, c'est pas champion pour la Coupe d'Europe, malheureusement. Donc, il reste un peu moins de 14 semaines avant le championnat d'Europe de football, de soccer masculin. Donc, le tournoi revient pour la première fois en 36 ans. Par contre, selon les chiffres qu'on a en ce moment, les stades où auront lieu les épreuves ne sont pas adaptés. La plupart d'entre eux, donc, ont très peu de place pour les personnes en situation d'handicap.
Et ce qui est terrible, c'est que, évidemment, quand ils créent des places pour des événements comme ceux-là, dès que l'événement est terminé, ils enlèvent les places accessibles pour remettre des sièges ordinaires.
Oui.
Alors, ils défont ce qu'ils viennent de faire, ce qui fait que l'accessibilité ne reste pas permanente, là.
Effectivement, et on parle quand même, ils ont une ordonnance du oui. fait d'avoir des lieux qui sont accessibles, donc d'avoir un certain pourcentage de sièges qui sont accessibles dans les stades jusqu'à 5 000 $. 1% de sa capacité doit être réservé aux utilisateurs en fauteuil roulant. Par contre, ce n'est pas atteint en ce moment en Allemagne, donc pour l'instant, pour les grands stades, donc les stades de plus de 5 000 $, on devrait être à 0,5% et ce n'est toujours pas atteint.
Et oui, c'est exact. Et le président de l'Association allemande des sports pour handicapés, Friedhelm Julius Bischer, a déclaré Es ist nur ein symbolisches Zeichen, das aber keine wirklichen Bedürfnisse hat. Ce qui veut dire que c'est juste un geste symbolique et ça ne couvre pas les besoins réels.
Oui, parce qu'ils ont demandé 500 $ supplémentaires pour les fauteuils roulants qui seront disponibles pour le championnat d'Europe. Mais d'un côté, ce n'est pas suffisant. D'un autre côté, comme vous l'avez dit, François, ce sera enlevé dès la fin du championnat.
Dans la fin du championnat, alors on retombe, entre guillemets, on retombe à zéro. Les étudiants... les cours de médecine, les étudiants médicaux et paramédicaux en situation de handicap. Ça, on va en parler après la pause, je pense, parce qu'on est un petit peu à la course. Juste avant de terminer, parce que ça, c'est quand même une question qui va être importante. La mannequin Nadjeh Meskine de Toulouse a fait un défilé en fauteuil roulant au cours du Fashion Week.
À Paris. Donc, ça faisait partie également d'un concours où on recrutait des personnes en situation d'handicap. Et donc, elle a pu effectivement aller sur les plus grandes scènes de Paris. Le concours était pour les personnes de 20 à 50 ans.
On parle du concours Miss Extraordinaire qui est copié sur Miss France. Mais là, on pourrait parler de est-ce que ça fait du sens de faire un Miss France? Deux, est-ce que... c'est un... on en reparle après la pause.
Vous êtes tour avec François Beauregard.
De retour. Les gens ici ont fait les gorges chaudes parce que je me suis exprimé brièvement en allemand. Mais quoi qu'il en soit, je vais travailler sur mon accent puis ça ira mieux la prochaine fois. Mais avant de partir pour la pause obligatoire... des 2 minutes, comme on dit au football. Élisane, on parlait de cette histoire de Miss Andy en France.
Extraordinaire.
Oui, c'est un... Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, ça me met un peu
Oui, on a senti un certain malaise de la part de François. Ouais. Effectivement, il faut se questionner à savoir sur ces concours de beauté-là qui... véhicule une certaine certains stéréotypes là, de beauté. Il a fait que la personne soit en situation d'handicap, ça pose une certaine ouverture. En même temps, on dirait que quand même on priorise la beauté physique.
On calque quelque chose. Qui est peut-être bancal ou dysfonctionnel d'un point de vue sociétal et moral. Mais comme pour créer une accessibilité à quelque chose qui, de toute façon, ne devrait peut-être pas exister. Voilà.
Oui, c'est bien dit.
Merci. Enfin, passons à la prochaine. Pourquoi donner du temps d'antenne quand on ne devrait pas? Les étudiants médicaux et paramédicaux en France en situation de handicap.
Oui, donc il y a 9 personnes, 9... J'ai perdu le mot,
fédération,
François.
Merci.
Fédération.
Oui.
Sur 10 qui disent que leurs étudiants ont reçu de la discrimination par rapport à leur choix de métier. Oh. Donc, c'est dans le secteur de la santé. Donc, on aurait différentes problématiques par rapport
oui.
à ça.
C'est un sondage, en fait, qui a été effectué par 9 des 10 fédérations étudiantes qui regroupe les étudiants et étudiantes dans les sciences médicales et paramédicales. 48,2% des étudiants étudiantes en situation d'handicap ont été victimes de pratiques discriminatoires. C'est déjà beaucoup. Ce qui est un peu désolant aussi, c'est que 78% n'ont pas signalé les actes discriminants dont ils ont été victimes. Et ça, souvent, les gens ne veulent pas le faire parce qu'ils vont faire des vagues, puis ils sont dans un rapport de force qui n'est pas leur avantage là, quand ils sont étudiants dans une faculté. Mais 85% des personnes en situation, des étudiants en situation de handicap qui ont rapporté des actes discriminatoires n'ont pas vu de réel changement suite à leur dénonciation. Ça, c'est grave.
Et 63% craignaient que le handicap nuise à leur réussite, alors que 30% croyaient qu'il n'était pas possible de bénéficier d'adaptation au courant de leurs études. Alors que les adaptations, il faut le dire, c'est obligatoire. Il faut adapter l'école et les différents examens aux besoins de la personne en situation de handicap. Cependant, on parle de discriminations qui sont quand même graves, là. C'est-à-dire, par exemple, de ne pas donner ces accommodations-là en disant à la personne que, de toute façon, étant donné sa situation de handicap, elle ne passera pas le test.
Ben voilà, ben pourquoi, en fait, vous êtes-vous inscrit ou inscrite de toute manière, hein?
De toute façon, donc, même si je vous donnais ce que vous demandez en matière d'accessibilité et d'accommodement, vous ne passerez pas le test de toute façon.
Ben
et
oui.
Donc, je ne vous le donnerai pas.
Alors, finalement, le problème n'est pas l'accessibilité, c'est le service des admissions.
Oui,
voilà, qui laisse des gens qui ne devraient pas se présenter. Là, on fait du cynisme. Mais enfin, on toujours dans notre politique Oreo, comme quoi il y a du bon et du mauvais, le système d'exploitation iOS 18 pourrait ajouter de nouvelles fonctionnalités pour faciliter la vie des utilisateurs.
Oui, on parle d'un système qui va sortir donc au mois de septembre, qui va être disponible sur nos amis iPhone, François.
Oh oui.
Les iPhones qui sont donc très connus. Et ce système-là va fonctionner avec les commandes vocales qui vont permettre donc d'enregistrer des commandes personnelles qui vont pouvoir activer des fonctions sur le téléphone.
Oh, donc on va pouvoir créer ses propres boutons ou ses propres icônes, je dirais, sonores et pouvoir passer des commandes à notre téléphone intelligent. En donnant des petits bouts de phrases clics qui, pour nous, font du sens, ça va aider les personnes qui peuvent avoir de la difficulté à appréhender un écran tactile. Là.
C'est une amélioration de Live Speech qui est déjà en lien, qui est déjà fonctionnel donc sur les iPhones, qui permet, entre autres, de parier à son téléphone et que le téléphone puisse convertir au niveau du texte ou, au contraire, donc décrire et que le téléphone soit capable de lire ce qu'on dit, y compris dans une conversation téléphonique.
Oh.
C'est ça, en fait, qui est relativement nouveau, c'est qu'on pouvait le faire, par exemple, sur différentes applications, mais là, on parle de pendant une conversation au téléphone avec quelqu'un.
On va être capable de le faire, entre guillemets, en direct,
oui.
En temps réel. Alors, ça va permettre aux différentes catégories d'utilisateurs de créer des catégories, d'y classer des phrases, d'attribuer une icône à chaque catégorie, et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir se bâtir une forme de dialogue qui va peut-être permettre d'avoir une meilleure compréhension, surtout parfois quand on communique avec des organismes ou des services à la clientèle, puis on a peut-être avoir des difficultés à se faire comprendre ou d'être capable de manipuler notre téléphone, ainsi de suite. Ça va accélérer, puis ça va éviter si je peux dire, les bris de communication, là.
Et il y a différentes autres choses qui vont être accessibles. Entre autres, il y a la police qui va être plus facile à agrandir et d'autres mesures d'accessibilité qui sont à venir. Donc, c'est très attendu, évidemment, pour septembre.
Septembre, iOS 18, puis on espère que ça va être on va être capable d'utiliser ces fonctions-là en retournant derrière avec des systèmes d'exploitation précédemment lancés. Un peu dans la même volée,
oui.
OpenAI a annoncé une nouvelle fonctionnalité de ChatGPT.
Oui, ChatGPT, donc on parle beaucoup. Ça fait quand même quelques mois qu'il est possible de discuter oralement avec ChatGPT. Donc, il est capable de traduire nos questions à l'oral. Par contre, on propose une nouvelle fonctionnalité, le chatbot OpenAI est désormais capable de lire ses réponses à haute voix.
Oh.
Donc, il pouvait comprendre nos questions, mais maintenant, il est capable de lire les réponses à haute voix. Ce qui fait que pour quelqu'un qui a des difficultés visuelles, par exemple, c'est beaucoup plus facile. Donc, on pouvait poser la question et maintenant, on peut recevoir la réponse à haute voix. Ça rend plus facile pour les personnes en situation d'handicap et plus largement, ça fait une fonctionnalité de plus pour tout le monde et ça rend plus facile d'avoir accès aux réponses de ChatGPT un peu partout, hein, pendant qu'on marche sur le trottoir, entre autres.
Oui, ben ça a été lancé le 4 mars, ou ça a été annoncé, le lancement a été annoncé le 4 mars, dis-je. Cette caractéristique est en cours de déploiement sur les applications mobiles. Pour rappel, depuis quelques mois, il est possible de discuter oralement, comme vous venez de le dire. ChatGPT va avoir 5 voix différentes qui vont s'exprimer dans 37 langues. Et ça se distingue de son utilisation facile sur les applications iOS Apple, Android. On verra bien comment tout ça va se faire. Mais je m'amuse toujours avec ChatGPT d'essayer de poser des questions auxquelles les réponses sont difficiles. Et à chaque fois, je suis surpris.
Et vous, bon? Bon, ChatGPT, bon encore François, tout le monde, c'est une bonne nouvelle.
On revient au Canada, on revient au Québec.
As-tu testé ton allemand avec ChatGPT? Pas encore.
Je ne répondrai pas à cette question. J'utilise d'autres applis, mais quoi qu'il en soit. j'ai peur un peu de la réponse que ChatGPT poliment risque de me donner. Voilà. Il y a eu une lettre ouverte dans le Journal de Québec.
Revenons à quelque chose de très sérieux, François.
Dans le cadre du 8 mars.
Dans le cadre du 8 mars, donc, qui était la Journée internationale des droits des femmes. Et il y a une lettre ouverte qui a été signée là, par différentes personnes, dont Stéphanie Brané, directeur de l'Association québécoise de l'équité et de l'inclusion postsecondaire. Aussi, Lynn Beauregard du Réseau international pour le processus et production du handicap. Et Paul Lupien de la Confédération des organismes des personnes handicapées. Ce qui déplore dans la lettre ouverte, en fait, c'est vraiment que l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, et entendons-nous les femmes plus précisément, ça reste encore des choses à améliorer. Le travail n'est pas fait adéquatement, on n'avance pas assez vite selon eux dans la lettre ouverte. Donc on parle entre autres du logement, à la crise du logement. Pour les femmes en situation de handicap, c'est encore pire que pour les personnes qui n'ont pas de situation de handicap. Alors que 20% de la population québécoise est en situation de handicap, seulement 1% des logements sont réservés aux personnes en situation de handicap.
Il était question aussi du climat, parce que ça, ça a l'air de rien, là, parce que le climat est une question qui a l'air générale, mais quand il y a des canicules, c'est pas tout le monde qui écope de la même manière.
Oui, donc la crise du logement qui touche les personnes en situation de handicap, les femmes particulièrement, de façon disproportionnée. Les femmes en situation de handicap sont aussi deux fois plus susceptibles de vivre dans la pauvreté et sont souvent évidemment oubliées dans les politiques de programmes d'aide d'urgence, des programmes d'adaptation, des programmes d'atténuation, comme on en voit pour les crises climatiques.
Ou les feux de forêt, ou les inondations, ou les autres catastrophes là, qui
sont en lien, avec les changements climatiques.
Exact.
Donc, les femmes en situation de handicap sont oubliées des politiques d'aide d'urgence. Et on parle également, donc, de la crise en éducation.
Oui.
Alors que 28% des femmes en situation d'handicap n'ont pas de diplôme d'études secondaires.
Et là, ça fait comme un cercle de pauvreté.
Oui, c'est un cercle vicieux de pauvreté. C'est beaucoup plus difficile d'accéder à l'emploi, même lorsqu'on est très fortement diplômé. Donc, imaginez quand on ne l'est pas. La plupart ont des difficultés à atteindre les études de postsecondaire, faute de moyens, faute d'accompagnement ou faute, encore une fois, d'accessibilité ou d'adaptation. Même si, je l'ai dit tout à l'heure, c'est obligatoire d'adapter.
Ouais.
Reste que il faut savoir se battre, et j'en sais quelque chose.
Ouais.
Il faut savoir se battre pour faire valoir ses droits. Et des fois, on n'a pas l'énergie, on n'a peut-être pas non plus les moyens financiers d'accéder à des études qui coûtent très cher. C'est des obstacles supplémentaires pour les femmes en situation d'handicap. Et comme vous l'avez dit, François, c'est une roue qui tourne. Hein? Oui. Donc, ça devient beaucoup plus difficile d'accepter un bon emploi, ce qui fait que notre salaire est moindre. On est en situation de pauvreté. Pour se loger, c'est plus difficile. Oui. Et vous voyez donc à quel point ça continue comme ça. Aussi, les femmes en situation de handicap au niveau de l'accès au système de santé,
oui.
ça reste encore limité. On en a parlé, François, dans les dernières semaines, au niveau des soins gynécologiques, entre autres, mais ils subissent la discrimination quant à leurs droits sexuels et à leurs droits reproductifs, entre autres choses.
Aussi.
Il y a aussi beaucoup de cliniques médicales qui ne sont pas adaptées, des tables d'examen qui ne sont pas adaptées. Donc, les femmes sont obligées de ne pas avoir...
ne vont pas à leur rendez-vous.
Ne vont pas à leur rendez-vous ou doivent changer de clinique, aller à une clinique beaucoup plus loin, ont des difficultés à trouver des rendez-vous. On parlait également, rappelez-vous, il y a quelques semaines, des machines à mammographie hein, où il faut être debout.
Oui.
Pour une personne en situation de handicap, dans un fauteuil roulant, se mettre debout, c'est pas facile. Ça peut être dangereux. On ressent un malaise aussi de la part des intervenants, des médecins, par rapport aux conditions des femmes en situation de handicap. Et donc, ce malaise-là pousse plusieurs femmes à ne pas aller effectivement à leur rendez-vous ou ont de la difficulté à trouver des rendez-vous avec des gens compétents dans des cliniques qui sont adaptées.
Voilà. Alors, cette lettre ouverte que je vous invite à fouiller, à chercher et à lire et était dans les journaux le 8 mars, vendredi dernier. On fait une pause, puis après ça, on reste au Québec. On parle budget et on parle culture. De retour, c'était Ike Québec. Québec, oui, Québec comme Québec.
Québec comme Québec.
Mais Ike Québec est un saxophoniste de New York qui voilà, donc il ne faut pas... C'est, il s'appelle comme ça parce qu'il s'appelle comme ça. Ses parents s'appelaient comme ça, voilà.
Ben oui.
Ben... Et c'est tout simple. En parlant de Québec, ça va être le budget demain.
J'aime vos façons de faire des liens, François. Ouais, effectivement, demain, on a le budget et ressources et propriétaires. L'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec demande au gouvernement provincial d'inclure dans son budget de demain 139 millions supplémentaires en mesure d'urgence pour maintenir la qualité des services offerts dans les résidences intermédiaires.
Oh! C'est pas rien, ça. Mais c'est criant comme besoin, là. C'est pas
criant un petit comme
chiffre.
Besoin. En raison de l'augmentation des frais de fonctionnement depuis la pandémie, de plus en plus de ressources intermédiaires peinent à joindre les deux bouts. Donc, il y a de plus en plus de ressources qui ferment, on l'a dit dans les dernières semaines. Et c'est de plus en plus difficile de placer les gens alors que la demande augmente. L'association demande donc 20 $ de plus par jour par résident. Ce qui équivaut à environ 139 millions de dollars.
Ben, on verra bien qu'est-ce qui sort de... C'est sûr que de faire une demande dans les journées qui précèdent, c'est plus une question de pression politique, là.
Oui.
Puis de voir comment on pourra juger après à quel point le budget qui sera déposé demain est en harmonie avec les demandes du milieu.
Le but, c'est de mettre ça à l'agenda, François.
Exactement.
Pour parier quel est la politologue que je suis.
Voilà, ouais, ça c'est exact. C'est une bonne lecture, en
mettre
effet.
Mettre quelque chose à l'agenda. On s'en reparle la semaine prochaine.
C'est pour ça, comme ça, on peut regarder. Ah, bien, c'est un sujet qui était demandé, puis là, on analyse le budget en fonction de ce prisme-là. Puis on peut voir comment... En parlant de...
L'important, c'est d'en parler.
Ça, c'est vrai. C'est ce que Oscar Wilde disait... Même si on parle de moi en mal, ce qui importe, c'est qu'on parle de moi. Là, on va parler de l'école de... On change de sujet. On est rendu à Rivière-du-Loup, où il y a une école de musique qui a un truc, là. Moi, je trouve que ça a l'air formidable. J'en veux un pour Noël.
Oui. Donc, on parle effectivement d'un appareil de musique à l'école Alain Caron, à Rivière-du-Loup. Oui. Pour les personnes vivant en situation de handicap qui souhaitent jouer de la musique... Donc, on parle d'un...
Soundbeam.
Du Soundbeam qui s'apparente à une lampe de poche sur un trépied et qui peut donc avoir différentes ambiances sonores, faire des sons d'instruments, le tout grâce au mouvement de touches préprogrammées.
Oui, le Soundbeam est un instrument de musique électronique qui a été mis au point, inventé en Angleterre dans les années 80. À l'origine, c'était pour des danseurs de ballet dans le cadre de musique d'avant-garde. Alors, c'est un capteur de mouvement qui traduit les mouvements captés en des sons harmonieux. Alors, selon les mouvements que l'on fait, la vitesse, ainsi de suite, les sons qui vont être générés par le soundbeam vont varier. Alors, c'est comme une sorte de clavier électronique sans avoir besoin de toucher au clavier.
Oui.
Donc, on fait juste s'exprimer par le mouvement.
Oui, ce qui rend évidemment la musique plus accessible à des gens qui ne pourraient pas jouer d'instruments traditionnels.
Et en regardant des vidéos de l'école Alain Caron, on voit effectivement des personnes en situation de mobilité là, fort réduite, qui sont capables et qui de créer des sons harmonieux à leur goût. Et il y a un plaisir évident là, de pouvoir créer quelque chose et de jouer avec cet instrument-là. Moi, j'aimerais ça en avoir un sous l'arbre de Noël.
On va se cotiser
à
la radio.
Oui, parce que j'ai fait des recherches et un Soundbeam, ça va chercher dans les 6 ou 7 000 $.
Oh!
Oh oui, okay, ben, oui, c'est ça. On commence la collecte tout de suite.
On va commencer la collecte tout de suite à la radio.
Oui. Alors, non, mais pas de blague. Ça a l'air vraiment... Moi, je suis sûr que ça va se démocratiser. Puis
oui.
Ça a éventuellement l'idée de pouvoir créer la musique qui vient de notre propre mouvement, là.
Fait intéressant, François. L'Université Laval fait des recherches par rapport à cet instrument-là et à la façon de l'utiliser pour démocratiser la musique. Donc, on devrait avoir dans les prochains mois des recherches qui vont sortir de la part des chercheurs de l'Université Laval.
Ah ben, j'ai hâte de voir la suite. En parlant de mouvement et d'art, il y a des personnes qui, de par leur situation, passent leur vie au lit.
Oui.
Et ça ne les empêche pas de s'exprimer.
Il y a une exposition en ce moment à la Galerie d'art de l'UQAM qui s'appelle « De la vie au lit ». qui parle justement des personnes qui sont obligées d'être au lit de façon quotidienne.
Mais non seulement quotidienne, je dirais permanente. Là.
Oui, pardon, oui. Mais en fait, c'est parce qu'on parle d'un côté des gens qui sont permanents, d'un autre côté des gens qui y sont pour des blessures ou pour des situations qui ne sont pas permanentes. Donc, on voit les deux côtés de la médaille pendant cette exposition-là. Oui. Par exemple, quelqu'un qui fait une dépression majeure, donc qui va être au lit pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois parfois, mais qui n'est pas dans une situation où il va rester là toute sa vie. Donc, il y a différents types de clientèle et c'est ce qu'on veut vraiment exposer à la galerie de l'UQAM.
Je pense que c'est ouvert, ou l'exposition a cours jusqu'au 6 avril. Et à l'intérieur de ça, il va y avoir même des performances vidéo. Un dispositif permet aux personnes qui n'entendent pas les paroles et la musique d'en percevoir les vibrations. Ça, c'est intéressant. Un atelier de danse au lit sera également prévu avec Octavia Rose Ingle le 16 mars. Ça, c'est 16 mars, c'est vendredi, c'est samedi prochain. On rappelle qu'il y a quand même des artistes qui ont été, entre guillemets, cloués au lit, comme Frida Kahlo, dans la peintre mexicaine qui a commencé une grande partie de son œuvre après avoir eu de très graves accidents aux jambes. On parle de Marcel Ferron qui a été maintenu à l'hôpital par une tuberculose osseuse et qui a imaginé à partir de son lit d'hôpital les grandes verrières qui aujourd'hui ornent les stations de métro de Montréal.
Qu'on veut montrer en fait, François, c'est que le lit n'est pas seulement, bon, évidemment, un endroit où dormir, c'est aussi un endroit de création qu'il ne faut pas voir les personnes au lit comme étant des personnes invalides, donc qui sont incapables de créer. C'est ce qu'on veut montrer. Donc, il y a des personnes en situation de handicap, entre autres choses, qui peuvent quand même poursuivre des activités à partir de leur lit. Donc, c'est une situation à laquelle on n'est pas habitué de réfléchir. Ouais. Et on veut montrer ce pan-là, la réalité de certaines personnes.
En tout cas, ça va être intéressant de... Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas de cette manière.
On n'y pense pas. Moi, ça m'a amené à quand même beaucoup de réflexions. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont liées du matin au soir, parfois toute leur vie ou une grande partie de leur vie, mais qui vivent dans cet endroit-là, qui ont des conversations, qui créent des choses, qui travaillent. Et donc, effectivement, ça peut devenir un espace où on fait autre chose que simplement dormir.
Oui, tout à fait. Bientôt, on va devoir se quitter dans quelques minutes. Oui, ben avant de partir, on va faire quelques petites nouvelles en rafale. L'INCA va être à Repentigny le 26 mars. Hein, ça, c'est 26 mars, c'est dans deux semaines. Mettez ça à votre calendrier. Vous pouvez aller rencontrer les gens de l'INCA. Et on le sait, était à Saint-Jérôme. Étiez-vous à Saint-Jérôme, Élisane?
Je n'y suis pas allée, François, malheureusement.
Ben, j'en ai entendu parler en bien de la part de certaines personnes handicapées visuelles de mes connaissances des Basses-Laurentides. Ils étaient à Gatineau plus tôt cet hiver, à Québec l'automne dernier. Mais ce sera à Repentigny le 26 mars. Venez rencontrer les gens de l'INCA au centre communautaire Laurent-Venne, qui est au 225 boulevard J.A. Paré. Les gens de Repentigny, je suis sûr, connaissent bien cette adresse. Il va y avoir toutes sortes d'activités.
Différents ateliers, donc un atelier, entre autres, comment se vendre, des petites collations qui vont être données, aussi un atelier avec des applications accessibles par Lynn Dubé ou des interventions de groupe pour apprendre à mieux connaître les situations de stress pour les personnes avec des limitations visuelles, entre autres choses. Donc, vous pouvez consulter la programmation et vous inscrire si cela vous intéresse, si vous êtes dans le coin de Repentigny.
Le 26 mars, oui. Comment se vendre, c'est important dans des situations d'emploi, ainsi
entre
de suite.
Entre autres, oui. Quand on a des demandes d'emploi à faire et qu'on a des entrevues, ça peut tout changer. En plus, quand on est en situation de handicap, on a un obstacle supplémentaire. Donc, savoir se vendre, c'est toujours très important.
Exactement. Bien là, ça va être le temps de nous quitter. Hein? Dans les prochaines... on a des pauses obligatoires. Alors, il faut les respecter. Hein? On parlait de la pause des deux minutes au quatrième quart, Élisane. Ben, c'est un peu la même chose.
Exactement, même chose.
C'est tout pareil. Merci, Élisane Pellerin, pour cette recherche. Merci à Mathieu Tessier, germanophile, qui a été capable de corriger mon accent. C'est bien, ça. Claire Guérin à la recherche. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, le 18. Élisane, vous serez avec nous au bout du fil cette fois-là.
Oui, et vous pourrez faire l'émission en allemand, François, si ça y est, vous
J'oserais pas. Parfait. Merci tout le monde. À la semaine prochaine.